Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Luc au chapitre 3. L'année dernière, c'était vers cette saison, on avait lu les premiers chapitres, on avait fait ensemble les chapitres 1 et 2 dans la période de Noël, c'était. Et là, on va prendre un petit peu la suite. On avait lu en début d'année, pendant le premier trimestre, tout l'Évangile. C'était un travail qu'on devait faire à chacun à la maison, partager ce qui concernait Jésus, la façon dont il nous accueille. Et là, on va un petit peu reprendre Luc et nous nourrir de ce chapitre 3, qu'on connaît bien, puisqu'il s'agit de Jean-Baptiste, de son ministère, et du baptême de Jésus. J'ai nommé le message Jean-Baptiste, le Seigneur, la repentance et nous. Donc je vais lire. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de Liturée et du territoire de Traconite, Lysianas, tétrarque de l'Albilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Juste, je marque une pause dans la lecture. Donc nous sommes à peu près dans l'an 26 ou 27 comme ça, les indications très précises de Luc sur le contexte géopolitique du moment nous permet de faire une datation à quelques années près du début donc du ministère de Jean-Baptiste. Il alla dans le pays des environs du Jourdain, donc Jean-Baptiste, le fils de Zacharie. Prêchant, il alla dans le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause ou pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne, toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Luc 3, 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ?» Et il leur répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Et il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous ?» « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient à eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier. mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations ou encouragements. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet de Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes celle d'enfermer Jean dans la prison. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et ensuite, suit la généalogie de Jésus que nous n'allons pas lire. Alors ici, nous avons deux personnages historiques. Hein, on voit que cette introduction de l'évangéliste Luc précise bien, nous situe bien ça dans l'histoire des hommes. Jean-Baptiste, donc, et Jésus, deux personnages. Et nous avons également deux mots-clés, la repentance et le baptême. Alors, ce sont des mots que l'on connaît, avec lesquels on est familiarisé, mais qui sont spécifiques au monde chrétien. Et donc, ce qui est intéressant dans la Bible, c'est que quand elle amène un nouveau mot comme ça, comme le baptême ou la repentance, qui arrive ici tout à fait au début des évangiles, eh bien, ça permet de savoir mais de quoi ça parle. Parce que chaque fois, quand le premier mot est utilisé, c'est intéressant de voir, parce que c'est là où on va avoir le maximum d'explications sur le sens de ce mot. Et on va voir tout à l'heure que, concernant la repentance et le baptême, le sens contemporain peut être bien différent du sens qu'il avait à l'époque. Jean-Baptiste. Commençons par Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste? Alors, le chapitre 1 nous parle de sa naissance miraculeuse. C'était une dame, Élisabeth, qui était ménopausée et qui a eu miraculeusement ce bébé. Même son mari ne le croyait pas que ce soit possible. Un homme qui a eu une naissance miraculeuse, annoncée par un ange. Luc chapitre 1, verset 13. Un homme également consacré. Le texte dit « rempli du Saint-Esprit ». Dès sa naissance, Luc 1, 15. Également, un prophète, prophète du Très-Haut. C'est ainsi que son papa le présente en Luc 1, 76. C'est aussi une voix. Et pour nous, dans notre texte, c'est surtout une voix. La voix qui crie dans le désert. Et cette voix, c'est à cause de cette voix que l'on venait le voir, qu'on venait écouter Jean-Baptiste. Les autres textes nous le présentent dans un habit fait de poils, qui vivait dans le désert et qui mangeait des sauterelles. Un personnage qui n'avait rien de séduisant, mais un personnage qu'il fallait vraiment avoir écouté et entendu. C'était une voix qu'on allait faire taire. On le voit ici dans notre fin de texte. Comment Hérode a fait à un moment donné taire cette voix qui dérangeait trop de monde. Quelle est sa mission? Alors prenez une page juste avant, Luc chapitre 1 verset 16 et 17. Voilà ce que a annoncé l'ange à Zacharie son père. Luc chapitre 1 verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pourquoi ? Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. J'aime beaucoup, moi, cette expression, ce double mission qu'avait Jean-Baptiste, de ramener le cœur des pères vers les enfants. Et le cœur des rebelles à la sagesse des justes. Souvent, les pères, vous savez, quand on arrive à 50 ans comme ça, on pense qu'on sait tout. Et on devient des fois étroit. On communique un message ou des informations qui sont difficiles à recevoir parce qu'elles manquent vraiment d'amour. Et on voit que, de l'autre côté, les rebelles à la sagesse, c'est peut-être des personnes qui seront plus jeunes et qui vont être un conflit ici avec ces pères qui ont perdu leur amour. Et donc Élie va faire cette chose extraordinaire que de reconnecter les deux ensemble. Et c'est quelque chose qui m'épate beaucoup. C'est surtout ce verset, ramener le cœur des pères vers les enfants. C'est quelque chose qui est, je trouve, révolutionnaire. Mais on va en reparler. Et donc, verset 76-77, l'autre partie de sa mission de Jean-Baptiste, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Le pardon des péchés est indispensable pour être sauvé. Il marchera devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, préparer les voies de Dieu. Et donc Jean-Baptiste a prêché donc le baptême de repentance dans notre texte. Alors quelle était sa méthode? C'était assez direct, hein, vous avez vu, race de vipère. Il n'allait pas par quatre chemins, il disait les choses telles qu'elles étaient. Et même qu'on soit grand ou petit, il n'a pas eu peur de parler à Hérode. Et ça lui a valu d'ailleurs la prison. Un homme qui était direct. Et c'est intéressant que c'est serpent qui dit, pour qui vous a appris de fuir devant la colère à venir? Et les serpents sont des animaux qui fuient quand les hommes s'approchent, entre autres. Ils ne veulent pas, ils fuient la confrontation avec l'homme. Et quand ils sont acculés comme ça, quand ils ne peuvent plus fuir, eh ben ils vont se dresser et ils vont mordre. Et ils vont devenir méchants et donner un vérin mortel. Et c'est ainsi souvent que sont les hommes. Quand ils sont face à Dieu, ils fuient. Ils fuient. Et quand ils ne peuvent plus fuir, eh ben voilà, ils se dressent et ils veulent mordre. Triste condition humaine que décrit par cette image ici Jean-Baptiste. Il est direct, donc. Il est aussi proche et accessible. Versets 10 et 14, il y a c'est un homme qui peut pas se résumer à, voilà, il était avec un message fort et abrupt. Il était aussi un cœur pastoral là, qui manifeste il est proche, accessible des gens. Les gens peuvent s'approcher de lui malgré son allure qu'il devait avoir assez austère. Les gens peuvent s'approcher de lui, lui parler. Mais qu'est-ce que je dois faire? Parle-moi. Et il donnait des conseils pratiques, adaptés à chacun. Au verset 10, 14, à chacun, il a une recommandation. À chacun, il répond, quelle que soit sa situation. Il donne des encouragements, des exhortations. Il encourage, il console. C'était le ministère de Jean-Baptiste. Et il est aussi efficace. Les foules reviennent à Dieu. Le désir d'obéir au premier commandement, vous savez, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ben, l'amour du prochain montre que la connexion avec le désir d'obéir au premier commandement est là, et ça se manifeste par l'amour pour le prochain, qui est ici dans les recommandations de Jean-Baptiste. Un homme, une mission, une méthode. Il avait un message de repentance, donc. Alors, ça fait partie des mots qui sont un peu pièges, surtout aujourd'hui. À la fin du XXe siècle, certains dictionnaires l'avaient carrément effacé. Ils considéraient que c'était un mot qui était hors d'usage. Bon, alors que les églises évangéliques l'ont toujours utilisé, mais pour eux, ça comptait pas. En tout cas, il a été remis à l'honneur par nos hommes politiques qui lui ont donné un sens par rapport à la responsabilité des institutions, des États face aux faits historiques, après avoir longtemps nié un fait, une mauvaise action, une faute qu'avait fait un État ou une institution. Il y avait repentance. On reconnaissait longtemps après qu'effectivement, il y avait là un problème et une faillite. Et c'est ce sens un petit peu maintenant qui est utilisé en dehors du monde et du cercle des chrétiens. Mais on va pouvoir voir ensemble ce mot grec métanoïa qui n'a tout autre sens. Il exprime un changement de pensée, un changement de conduite qui se produit à l'approche de Dieu. Lorsqu'une personne est à l'approche de Dieu, il va y avoir tout un changement dans ses pensées et dans sa conduite. C'est ça qui nous intéresse ce matin. Nous sommes dans le bon texte pour comprendre le mot repentance. Dieu nous pousse à la repentance quand il s'approche de nous. Alors au verset 9 et verset 11, déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Hein? Dieu arrive, repentez-vous. Et avec l'idée d'un jugement ici qui va être apporté. Au verset 16 également. Je vous baptise d'eau, il y a avec moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il vous baptisera de feu. Il vous fera passer par le feu de la purification. Il s'approche de nous par sa majesté également. Le texte n'en parle pas, mais on le sait à travers toute la création. Dieu nous parle, Dieu s'approche de nous et dans son amour qu'il a manifesté dans la personne de Jésus. Et Jésus lui-même manifestant le Père. Et donc ici, à travers ce texte et à travers la venue de Jésus, Dieu s'approche des hommes. Quelle sera notre réaction à l'approche de Dieu? Quand Dieu s'approche de nous, comment on réagit? C'est ça le défi qui est devant nous ce matin. Méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité? Dit le texte de second. Ne reconnaissant pas que la bonté, l'amour de Dieu te pousse à la repentance. Quand Dieu s'approche, Dieu nous pousse à la repentance. Et c'est la repentance envers Dieu. Tous les péchés est premièrement envers Dieu, psaume 51:6. J'ai péché contre toi seul, dit David, alors qu'il avait péché contre tout Israël. J'ai péché contre toi seul, dit-il. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Comment comprendre ça? Nous sommes tous des créatures qui appartenons à Dieu. Faire du mal à une personne, c'est faire du mal à une personne que Dieu, à qui Dieu donne la vie, à qui qui lui fait du bien, qui est en quelque sorte son propriétaire initial. Dieu a créé toutes les personnes, c'est par lui qu'elles ont le souffle de vie, et faire du mal à une personne, ah ben, automatiquement, c'est s'en prendre à celui qui lui leur fait du bien, Dieu. La repentance est envers Dieu. Et la repentance conduit au pardon. Le pardon, c'est la rémission des péchés dans notre texte ici. La rémission du péché. Rémission du péché, c'est la remise de peine, la délivrance, l'effacement du péché, de la faute. Et le pardon, bien sûr, dans la Bible sous-entend l'expiation. Il faut qu'il y ait, ce soit réglé définitivement. Et notre texte de Ésaïe 40, qui a été cité ici, on va le lire ensemble tout à l'heure, parle de tout cela. La repentance conduit au pardon. Et le pardon n'est donc pas la repentance. La repentance est de notre côté. C'est nous qui faisons la démarche en quelque sorte. Et le pardon, c'est du côté de Dieu. C'est lui qui l'accorde. C'est lui qui va payer le prix du pardon. Mais la repentance, ce changement d'idéal, l'approche de Dieu, c'est du côté des hommes. Le pardon est donné suite à la repentance. La magnifique illustration qu'on a et qu'on ne doit jamais perdre de vue, c'est celle du fils prodigue que Jésus va enseigner au chapitre 15. Et on a ces deux étapes qui se produisent très très claires, où le fils rentre à lui-même et il dit « Mais je vais revenir vers mon père. J'étais mieux là-bas. Je vais revenir vers mon père. J'ai péché contre lui. » J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je vais revenir vers mon Père. Ça, c'est la repentance. Et le pardon, c'est le Père qui l'accorde quand il accueille son fils qui revient, qui le serre dans ses bras. C'est ça, le pardon de Dieu. Et il y a un, et après il y a l'autre, mais le pardon est obligatoirement précédé de la repentance. La repentance porte des fruits, au verset 8. Produisons des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire à vous-même, nous avons Abraham pour père. On voudrait tous nous appuyer sur nos acquis, ce qu'on a acquis. On est né dans une famille chrétienne, on a toujours suivi l'enseignement de Jésus, nous semble-t-il. Et voilà. Je connais l'histoire de la Bible, je connais tout cela. Et on voudrait avoir le pardon de Dieu sans la repentance. Et c'est impossible. C'est impossible. La repentance arrive avec la venue, quand Dieu s'approche de nous. C'est ça qui va susciter en nous la repentance. Alors il s'agit de ne pas fuir, comme le serpent. Quand Dieu s'approche, le serpent va s'enfuir. Qui vous a appris à fuir, dit Jean-Baptiste. Non, il faut se repentir à l'approche de Dieu. Et la repentance, donc, est toujours d'actualité aujourd'hui. C'était pas quelque chose qui s'est arrêté avec le baptême de Jean-Baptiste et son emprisonnement. À la fin de l'évangile de Luc, chapitre 24, 46, vous pouvez aller chercher ce beau verset si vous avez vos Bibles. Jésus, en tout cas, dit à tous, avant que de confier ses dernières paroles à l'Église, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et quoi ? Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc la repentance est incontournable, même pour nous, et surtout, je dirais, pour nous, chrétiens. Jésus. Alors, on va mieux comprendre quel est celui qui s'approche, parce que Jésus est Dieu. Luc chapitre 2, verset 4. Regardez, il est dit ici, dans notre texte, la voix de celui qui crie dans le Seigneur, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ce sentier. Qui c'est ce Seigneur? Ben, le Seigneur, c'est Dieu. Hein? Dans l'esprit des personnes, c'est Dieu. C'est le mot Seigneur qui est utilisé, mais si vous regardez Luc au chapitre 1, verset 8, Zacharie, il est entré dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. L'ange du Seigneur a apparu à Zacharie, etc. On ne prononçait plus le mot éternel à ce moment-là, on prononçait le mot Seigneur à la place. Et donc il s'agit bien du Seigneur, de Dieu lui-même qui s'approchait et que Jean-Baptiste devait annoncer. On va lire maintenant Ésaïe chapitre 40. On va faire là. On a un extrait ici qui est donné dans notre Bible, mais on va aller chercher Ésaïe 40. Parce que ce texte est tellement beau. Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour votre Dieu. Que ce soit clair, pour votre Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu qui vient vers les hommes. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra. Et c'est ainsi que toute la foule a vu Jésus-Christ. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix crie. Il répond, que crierai-je ? Une voix dit, crie. Toute chair est comme l'herbe, tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe, et l'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. L'évangile, élève avec force, Jérusalem pour publier la bonne nouvelle, élève ta voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande, voici le salaire est avec lui, les rétributions le précèdent comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra soin. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent avec ses deux faces. Ici, qu'on retrouve dans le précurseur Jean-Baptiste, à la fois un message direct, sévère, et à la fois la douceur du berger ici. Il vient avec les rétributions. Il vient aussi comme un berger qui va porter les agneaux, qui va conduire les troupeaux, les brebis qui allaitent, qui sont fragiles. Il va s'occuper d'elles. Jésus, c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu. Au verset 22 de notre texte. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Le mystère de la Trinité est... quelque part incompréhensible, mais voilà, Jésus est Dieu, c'est le justicier, c'est celui qui juge et celui qui exécute le jugement. Il fait les deux choses, c'est un justicier. On n'aime pas les justiciers parce qu'on se dit, vous savez, les oraux, les Robin des Bois, ils jugeaient les gens et en même temps ils exécutaient la peine. On trouve qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais pour Dieu, pour Jésus-Christ, c'est ainsi. Il juge et met en exécution les jugements. Et de quelle manière ? Il est dit au verset 7. Verset 8, 9, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est clair. Tout ce qui porte pas de fruits pour Dieu, sera coupé, sera débarrassé au feu. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air. Et là, on a l'image de la séparation du grain, de tout ce qui l'enveloppe, de tout ce qui est que poussière, que néant, et ce qui intéresse Dieu, c'est le grain de blé, c'est le fruit. Ce qui va porter du fruit pour la vie éternelle. Et c'est donc le justicier, celui qui va trier, il va faire le tri, il va séparer le blé de la paille dans un grand feu, le blé dans son grenier, et il juge et il exécute ce jugement. C'est aussi l'intermédiaire avec Dieu, il baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui plonge les hommes qui croient en lui dans le Saint-Esprit, en Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est plongé dans Dieu lui-même. Il le plonge dans Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit est en nous, dans le croyant après. C'est lui qui fait cela. Il est intermédiaire. Il est le chemin, la vérité, la vie, nous dit l'apôtre Jean. La porte, la lumière, le berger, le pain de vie, le cep. Intermédiaire avec Dieu. Et il est aussi homme. Et c'est ce texte le présente ainsi avec toute sa généalogie qui le fait remonter à Adam. Parfaitement Dieu, parfaitement homme, parfait intermédiaire, parfait justicier. Qu'allons-nous faire à son approche? Qu'allons-nous faire à son approche? Il faut se repentir, il faut changer, il faut, on l'a chanté, se tourner vers lui et recevoir le pardon. Parlons du baptême. Alors, pour nos dictionnaires, le baptême, c'est un sacrement religieux qui fait entrer dans l'Église de Jésus-Christ. Ou alors, c'est la première fois, hein, quand on met un bateau à l'eau, on le baptise. Quand on prend l'avion pour la première fois, on fait le baptême de l'air. La bataille du feu, c'est la première fois que les soldats vont aller essuyer les balles ennemies. Mais qu'est-ce que c'est le baptême biblique? Alors on est dans le bon texte pour comprendre ce que c'est le baptême, parce que c'est la première fois que le Nouveau Testament en parle. Alors on voit que le baptême, c'est pas nouveau, ça suit la repentance, ça semble tellement naturel. C'est bien clair dans notre texte, les gens se repentent. Dieu s'approche d'eux, ils se repentent, ils reçoivent le pardon, ils sont baptisés. Ça suit la repentance. Actes chapitre 2, verset 38, c'était valable du temps. Le baptême de Jean-Baptiste et le baptême du croyant qui va suivre après, ce sera la même chose. Pierre dit, repentez-vous à la foule le jour de la Pentecôte, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc il suit la repentance. Il est public également. Le texte de Matthieu ici précise, dans le passage de Matthieu, il précise que les personnes qui venaient voir Jean-Baptiste confessaient leurs péchés publiquement. Et puis elles étaient baptisées. C'est quelque chose qui est public, qui se pratiquait par immersion. En Matthieu 3,16, Jésus remonte de l'eau. Jean précise que Jean-Baptiste y baptisait dans les endroits où il y avait beaucoup d'eau. Jean 3, 23. Et donc, c'était un baptême par immersion. C'était l'image de une suite, en quelque sorte, du baptême que pratiquaient les Juifs également à l'époque. Mais eux, ils avaient le sens de la purification. Enfin, le texte ne parle pas de ces choses-là, donc ça va être très important. Pourquoi le baptême, c'est comme Jésus. S'il y a une raison, une bonne raison d'être baptisé, ben c'est Jésus l'a fait. Jésus a été baptisé. Et si j'aime Jésus, si je lui appartiens, ben moi aussi, je voudrais me faire baptiser comme Jésus. Lui qui n'avait pas besoin de repentance, il a quand même demandé à être baptisé. Il s'est identifié à nous jusqu'au bout. Et si lui l'a fait, combien plus forte raison, nous aussi, on doit se faire baptiser. C'est aussi une étape marquante de la vie chrétienne. Jésus a été conduit dans le désert pour être mis à l'épreuve. Ça, c'est ce qui va suivre après son baptême. Ça se produit, donc il y a quelque chose de marquant, qui marque bien la vie chrétienne. Et on peut dire qu'aujourd'hui, le baptême, c'est par l'Église et c'est pour l'Église. Si on, Jean-Baptiste n'est plus là, en Matthieu, chapitre 28, donc un passage qu'on connaît bien. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là, Jésus s'adresse à son Église, donc c'est maintenant c'est l'Église qui pratique le baptême. C'est pas marqué baptisez-le. baptise-le, c'est baptiser, il s'adresse à tous. Et donc c'est une responsabilité de l'Église que de le faire. Maintenant il y a avec Internet qui est arrivé, ben on trouve que voilà le public ce sera ceux qui visionnent les vidéos d'Internet. Et ceci, il paraît qu'il y a des baptêmes privés qui se font, mais et il me semble qu'on est quand même loin ici du baptême tel qu'il nous est montré et détaillé pour Jésus du temps de Jean-Baptiste. Alors, le Seigneur vient vers moi, suis-je prêt ? Le Seigneur revient. Je crois que le défi pour nous, c'est de pas être comme les serpents qui fuient lorsque Dieu s'approche. Dieu revient. Est-ce que je suis prêt à le rencontrer? Est-ce que je suis prêt à le rencontrer? Le moteur de la repentance et de la demande de pardon, c'est pas est-ce que l'autre qui m'a offensé va me demander pardon pour que je lui pardonne, mais c'est Dieu vient, est-ce que je suis prêt? Et ce qui va nous susciter la repentance, c'est l'idée de se retrouver demain devant le Seigneur. Et là, c'est là où il faut se préparer, c'est là où il faut tourner notre cœur vers lui, nos pensées, et changer de direction si on n'était pas dans une bonne direction, se repentir, et alors on reçoit le pardon et cette rencontre avec Dieu, avec le Seigneur, avec Dieu pourra se faire dans les meilleures conditions possibles. Le Seigneur vient vers moi, suis-je prêt? Suis-je prêt? Ne soyons pas donc comme les serpents qui fuyons ce moment, le moment de cette rencontre. Mais anticipons-le. Alors, l'autre question qui se pose, est-ce que je suis baptisé? Tel qu'on le voit dans ce texte, là, l'Église a 2000 ans d'histoire, et par rapport au baptême, tel qu'il se faisait pendant des siècles, hein, jusqu'à ce que le baptême des nourrissons soit introduit dans l'Église, il y a eu il y a toute cette période où le baptême se faisait par immersion, le baptême des croyants, et après le baptême des nourrissons par aspersion est arrivé. Je ne sais pas exactement pourquoi ni comment, mais l'idée quand même, c'est de confesser publiquement le nom de Jésus, publiquement déclarer sa foi à Jésus-Christ. L'idéal, c'est bien sûr de se faire baptiser tel que on le voit ici, suite à la repentance. Il y en a qui se font baptiser qui ont été baptisés en étant enfants et qui ne refont pas le baptême. Ils font une confession de foi, ils déclarent publiquement leur foi, et bon, chacun agit selon ses convictions. Mais pour ce qu'on voit dans la Bible, en tout cas, il y a bien la repentance, le pardon, le baptême, qui sont dans un ordre comme ça. Voilà, on va en terminer là. Ce sujet important de la repentance, il y a aucun de nos chants qui en parle. Le baptême, on n'en a pas davantage. Alors, je ne sais pas pourquoi. Que le Seigneur nous conduise dans une pleine, en tout cas dans une pleine conviction. Demandons-nous pardon les uns aux autres. Vivons cette repentance telle que elle nous est présentée dans la Bible pour être prêt lorsque le Seigneur va revenir, pour être en règle, comme on dit. Je vais prier. Seigneur, merci pour l'exemple de Jean-Baptiste, merci pour qui il était, un précurseur de Christ. Il est donné sa vie à cause de son message, il a été fidèle jusqu'au bout et il a été supprimé, et Jésus-Christ lui aussi a suivi quelque part le même destin que d'être injustement condamné, et sa vie a été offerte en sacrifice pour le pardon des péchés. Merci pour qui est Jésus-Christ. Merci pour à la fois ce berger qui prend tendrement les brebis dans ses voies, et à la fois ce juge et celui qui va exécuter la justice et qui rendra justice un jour. Merci pour qu'il se soit approché de nous en tant qu'homme, et merci parce que il s'est rendu accessible. Et toute la plénitude de la divinité, dit la Bible, existait en Jésus-Christ. Existe en Jésus-Christ. Et Seigneur, merci de cela, merci de ce que tu t'es avenu vers nous, de ce que tu as réveillé ce désir de nous mettre en règle avec toi et de nous avoir convaincus à cause de nos fautes. Nous avoir convaincu à cause de ton amour que nous avions besoin de revenir à toi, de te demander pardon et de recevoir ce pardon que tu nous as acquis, que tu as payé à la croix en versant ton sang. Dans le nom de Jésus, amen. Amen.